Quand Grandet eut tiré la porte, Eugénie et sa mère respirèrent à leur aise. Avant cette matinée, jamais la fille n'avait senti de contrainte en présence de son père. Mais depuis quelques heures, elle changeait à tout moment de sentiments et d'idées. « Maman, combien de louis a-t-on d'une pièce de vin ?»« Ton père vend les siennes entre 100 et 150 francs, quelquefois 200, à ce que j'ai entendu dire. » Quand il récolte 1400 pièces de vin, ma foi, mon enfant, je ne sais pas ce que cela fait. Ton père ne me dit jamais ses affaires. Mais alors, papa doit être riche. Peut-être, mais Monsieur Cruchot m'a dit qu'il avait acheté Froidfond il y a 2 ans. Ça l'aura gêné. Eugénie, ne comprenant plus rien à la fortune de son père, en resta là de ses calculs. Il ne m'a tant seulement point vu, le mignon, dit Nanon en revenant. Il est étendu comme un veau sur son lit et pleure comme une madeleine, que c'est une vraie bénédiction. Quel chagrin a donc ce pauvre gentil jeune homme ? Allons donc le consoler bien vite, maman, et si l'on frappe, nous descendrons. » Madame Grandet fut sans défense contre les harmonies de la voix de sa fille. Eugénie était sublime, elle était femme. Toutes deux, le cœur palpitant, montèrent à la chambre de Charles. La porte était ouverte. Le jeune homme ne voyait ni n'entendait rien. Plongé dans les larmes, il poussait des plaintes inarticulées. « Comme il aime son père !» dit Eugénie à voix basse. Il était impossible de méconnaître dans l'accent de ses paroles les espérances d'un cœur à son insu passionné. Aussi, Madame Grandet jeta-t-elle à sa fille un regard empreint de maternité, puis tout bas à l'oreille. « Prends garde, tu l'aimerais !» dit-elle. « L'aimer ?» reprit Eugénie. « Ah, si tu savais ce que mon père a dit !» Charles se retourna, aperçut sa tante et sa cousine. « J'ai perdu mon père, mon pauvre père. S'il m'avait confié le secret de son malheur, nous aurions travaillé tous deux à le réparer. Mon Dieu, mon bon père. Je comptais si bien le revoir que je l'ai, je crois, froidement embrassé. » Les sanglots lui coupèrent la parole. « Nous prierons bien pour lui, » dit Madame Grandet. « Résignez-vous à la volonté de Dieu. » « Mon cousin, » dit Eugénie, « prenez courage. Votre perte est irréparable. Ainsi, songez maintenant à sauver votre honneur. » Avec cet instinct, cette finesse de la femme qui a de l'esprit en toutes choses, même quand elle console, Eugénie voulait tromper la douleur de son cousin en l'occupant de lui-même. « Mon honneur ?» cria le jeune homme en chassant ses cheveux par un mouvement brusque, et il s'assit sur son lit en se croisant les bras. « Ah, c'est vrai, mon père, disait mon oncle, a fait faillite !» Il poussa un cri déchirant et se cacha le visage dans ses mains. « Laissez-moi, ma cousine, laissez-moi ! Mon Dieu, pardonnez à mon père, il a dû bien souffrir !» Il y avait quelque chose d'horriblement attachant à voir l'expression de cette douleur jeune, vraie, sans calcul, sans arrière-pensée. C'était une pudique douleur que les cœurs simples d'Eugénie et de sa mère comprirent quand Charles fit un geste pour leur demander de l'abandonner à lui-même. Elles descendirent, reprirent en silence leur place près de la croisée et travaillèrent pendant 1 heure environ sans se dire un mot. Eugénie avait aperçu, par le regard furtif qu'elle jeta sur le ménage du jeune homme, ce regard des jeunes filles qui voient tout en un clin d'œil, les jolies bagatelles de sa toilette, ses ciseaux, ses rasoirs enrichis d'or. Cette échappée d'un luxe vu à travers la douleur lui rendit Charles encore plus intéressant, par contraste peut-être. Jamais un événement si grave, jamais un spectacle si dramatique n'avait frappé l'imagination de ces deux créatures, incessamment plongées dans le calme et la solitude. « Maman, dit Eugénie, nous porterons le deuil de mon oncle. »« Ton père décidera de cela, répondit Madame Grandet. » Elles restèrent de nouveau silencieuses. Eugénie tirait ses poings avec une régularité de mouvement qui eût dévoilé à un observateur les fécondes pensées de sa méditation. Le premier désir de cette adorable fille était de partager le deuil de son cousin. Vers 4 heures, un coup de marteau brusque retentit au cœur de Madame Grandet. « Qu'a donc ton père ? Dit-elle à sa fille. Le vigneron entra joyeux. Après avoir ôté ses gants, il se frotta les mains à s'en emporter la peau, si l'épiderme n'en eût pas été tanné comme du cuir de Russie, sauf l'odeur des mélèzes et de l'encens. Il se promenait, il regardait le temps. Enfin, son secret lui échappa. « Ma femme, dit-il sans bégayer, je les ai tous attrapés. Notre vin est vendu. Les Hollandais et les Belges partaient ce matin. Je me suis promenée sur la place, devant leur auberge, en ayant l'air de bêtiser. Chose que tu connais est venue à moi. Les propriétaires de tous les bons vignobles gardent leur récolte et veulent attendre. Je ne les en ai pas empêchés. Notre Belge était désespéré, j'ai vu cela. Affaire faite, il prend notre récolte à 200 francs la pièce, moitié comptant. Je suis payé en or. Les billets sont faits. Voilà 6 louis pour toi. Dans 3 mois, les vins baisseront. » Ces derniers mots furent prononcés d'un ton calme, mais si profondément ironique que les gens de Saumur, groupés en ce moment sur la place et ameutés par la nouvelle de la vente que venait de faire Grandet, en auraient frémi s'ils les eussent entendus. Une peur panique eût fait tomber les vins de 50%. « Vous avez 1000 pièces cette année, mon père ?» dit Eugénie. « Oui, fifille. » Ce mot était l'expression superlative de la joie du vieux tonnelier. « Cela fait 200 000 pièces de 20 sous. »« Oui, mademoiselle Grandet. » »« Eh bien, mon père, vous pouvez facilement secourir Charles. » L'étonnement, la colère, la stupéfaction de Balthazar en apercevant le Mantekel Fares ne sauraient se comparer au froid courroux de Grandet, qui, ne pensant plus à son neveu, le retrouvait logé au cœur et dans les calculs de sa fille. « Ah ça, depuis que ce mirliflor a mis le pied dans ma maison, tout y va de travers. Vous vous donnez des airs d'acheter des dragées, de faire des noces et des festins. Je ne veux pas de ces choses-là. Je sais, à mon âge, comment je dois me conduire, peut-être. D'ailleurs, je n'ai de leçons à prendre ni de ma fille ni de personne. Je ferai pour mon neveu ce qu'il sera convenable de faire. » Vous n'avez pas à y fourrer le nez. Quant à toi, Eugénie, ajouta-t-il en se tournant vers elle, ne m'en parle plus, sinon je t'envoie à l'abbaye de Noyers avec Nanon, voir si j'y suis. Et pas plus tard que demain, si tu bronches. Où est-il donc, ce garçon? Est-il descendu?
Non, mon ami, répondit madame Grandet.
Eh bien, que fait-il donc?
Il pleure son père, répondit Eugénie.
Grandet regarda sa fille sans trouver un mot à dire. Il était un peu père, lui. Après avoir fait 1 ou 2 tours dans la salle, il monta promptement à son cabinet pour y méditer un placement dans les fonds publics. Ses 2000 arpents de forêt coupés à blanc lui avaient donné 600 000 francs. En joignant à cette somme l'argent de ses peupliers, ses revenus de l'année dernière et de l'année courante, outre les 200 000 francs du marché qu'il venait de conclure, il pouvait faire une masse de 900 000 francs. Les 20% à gagner en peu de temps sur les rentes, qui étaient à 70 francs, le tentaient. Il chiffra sa spéculation sur le journal où la mort de son frère était annoncée, en entendant, sans les écouter, les gémissements de son neveu. Nanon vint cogner au mur pour inviter son maître à descendre. Le dîner était servi. Sous la voûte et à la dernière marche de l'escalier, Grandet disait en lui-même « Puisque je toucherai mes intérêts à 8, je ferai cette affaire. En 2 ans, j'aurai 1 500 000 francs que je retirerai de Paris en bon or. » « Eh bien, où donc est mon neveu ?»«
Il dit qu'il ne veut pas manger, » répondit Nanon. « Ça n'est pas sain. »
« Autant d'économiser, » lui répliqua son maître.
« Dame, oui !» dit-elle.
« Bah, il ne pleurera pas toujours. La faim chasse le loup hors du bois. » Le dîner fut étrangement silencieux.
« Mon bon ami, dit madame Grandet lorsque la nappe fut ôtée, il faut que nous prenions le deuil. »
« En vérité, madame Grandet, vous ne savez quoi vous inventer pour dépenser de l'argent. Le deuil est dans le cœur et non dans les habits. »
« Mais le deuil d'un frère est indispensable et l'Église nous ordonne de... »«
Achetez votre deuil avec vos 6 louis.
Vous me donnerez un crêpe, cela me suffira. »
Eugénie leva les yeux au ciel sans mot dire. Pour la première fois dans sa vie, ses généreux penchants endormis, comprimés, mais subitement éveillés, étaient à tout moment froissés. Cette soirée fut semblable en apparence à 1000 soirées de leur existence monotone, mais ce fut certes la plus horrible. Eugénie travailla sans lever la tête et ne se servit point du nécessaire que Charles avait dédaigné la veille. Madame Grandet tricota ses manches. Grandet tourna ses pouces pendant 4 heures, abîmée dans des calculs dont les résultats devaient, le lendemain, étonner Saumur. Personne ne vint ce jour-là visiter la famille. En ce moment, la ville entière retentissait du tour de force de Grandet et de la faillite de son frère et de l'arrivée de son neveu. Pour obéir aux besoins de bavarder sur leurs intérêts communs, tous les propriétaires de vignobles des hautes et moyennes sociétés de Saumur étaient chez M. des Grassins, où se fulminèrent de terribles imprécations contre l'ancien maire. Nanon filait, et le bruit de son rouet fut la seule voix qui se fit entendre sous les planchers grisâtres de la salle. « Nous n'usons point nos langues, » dit-elle en montrant ses dents blanches et grosses comme des amandes pelées. « Ne faut rien user, » répondit Grandet en se réveillant de ses méditations. Il se voyait en perspective 8 millions dans 3 ans et voguait sur cette longue nappe d'or. « Couchons-nous. J'irai dire bonsoir à mon neveu pour tout le monde et voir s'il veut prendre quelque chose. » Madame Grandet resta sur le palier du premier étage pour entendre la conversation qui allait avoir lieu entre Charles et le bonhomme. Eugénie, plus hardie que sa mère, monta 2 marches. « Eh bien, mon neveu, vous avez du chagrin. Oui, pleurez, c'est naturel. Un père est un père. Mais faut prendre notre mal en patience. Je m'occupe de vous pendant que vous pleurez. Je suis un bon parent, voyez-vous. Allons, du courage. Voulez-vous boire un petit verre de vin ? Le vin ne coûte rien à Saumur. On y offre du vin comme dans les Indes, une tasse de thé. « Mais, » dit Grandet en continuant, « vous êtes sans lumière. Mauvais, mauvais. Faut voir clair à ce que l'on fait. » Grandet marcha vers la cheminée. « Tiens, » s'écria-t-il, « voilà de la bougie. Où diable a-t-on pêché de la bougie ? Les garces démoliraient le plancher de ma maison pour cuire des œufs à ce garçon-là. » En entendant ces mots, la mère et la fille rentrèrent dans leur chambre et se fourrèrent dans leur lit avec la célérité de souris effrayées qui rentrent dans leur trou. « Madame Grandet, vous avez donc un trésor ?» dit l'homme en entrant dans la chambre de sa femme. « Mon ami, je fais mes prières, attendez, » répondit d'une voix altérée la pauvre mère. « Que le diable emporte ton bon Dieu !» répliqua Grandet en grommelant. Les avares ne croient pas à une vie à venir. Le présent est tout pour eux. Cette réflexion jette une horrible clarté sur l'époque actuelle, où, plus qu'en aucun autre temps, l'argent domine les lois, la politique et les mœurs. Institutions, livres, hommes et doctrines, tout conspire à miner la croyance d'une vie future sur laquelle l'édifice social est appuyé depuis 1800 ans. Maintenant, le cercueil est une transition peu redoutée. L'avenir, qui nous attendait par-delà le requiem, a été transposé dans le présent. Arrivé, per fas et nefas, au paradis terrestre du luxe et des jouissances vaniteuses. Pétrifier son cœur et se macérer le corps en vue de possessions passagères, comme on souffrait le martyr de la vie en vue de biens éternels, est la pensée générale. Pensée d'ailleurs écrite partout, jusque dans les lois qui demandent au législateur « Que paies-tu ?» au lieu de lui dire « Que penses-tu ?» Quand cette doctrine aura passé de la bourgeoisie au peuple, que deviendra le pays ?« Madame Grandet, as-tu fini ?» dit le vieux tonnelier. « Mon ami, je prie pour toi. »« Très bien, bonsoir. Demain matin, nous causerons. » La pauvre femme s'endormit comme l'écolier qui, n'ayant pas appris ses leçons, craint de trouver à son réveil le visage irrité du maître. Au moment où, par frayeur, elle se roulait dans ses draps pour ne rien entendre, Eugénie se coula près d'elle, en chemise, pieds nus,
et vint la baiser au front. « Oh, bonne mère, dit-elle, demain je lui dirai que c'est moi. »«
Non, il t'enverrait à noyer. Laisse-moi faire, il ne me mangera pas. »«
Entends-tu, maman ?»«
Quoi ?»«
Eh bien, il pleure toujours. »
Va donc te coucher, ma fille. Tu gagneras froid aux pieds. Le carreau est humide. »
Ainsi se passa la journée solennelle qui devait peser sur toute la vie de la riche et pauvre héritière, dont le sommeil ne fut plus aussi complet ni aussi pur qu'il l'avait été jusque-là. Assez souvent, certaines actions de la vie humaine paraissent, littéralement parlant, invraisemblables, quoique vraies. Mais ne serait-ce pas qu'on omet presque toujours de répandre sur nos déterminations spontanées une sorte de lumière psychologique, en n'expliquant pas les raisons mystérieusement conçues qui les ont nécessitées? Peut-être la profonde passion de génie devrait-elle être analysée dans ses fibrilles les plus délicates, car elle devint, dirait quelque railleur, une maladie et influença toute son existence. Beaucoup de gens aiment mieux nier les dénouements que de mesurer la force des liens, des nœuds, des attaches qui soudent secrètement un fait à un autre dans l'ordre moral. Ici donc, le passé de génie servira, pour les observateurs de la nature humaine, de garantie à la naïveté de son irréflexion et à la soudaineté des effusions de son âme. Plus sa vie avait été tranquille, plus vivement la pitié féminine, le plus ingénieux des sentiments, se déploya dans son âme. Aussi, troublée par les événements de la journée, s'éveilla-t-elle à plusieurs reprises pour écouter son cousin, croyant en avoir entendu les soupirs qui, depuis la veille, lui retentissaient au cœur. Tantôt elle le voyait expirant de chagrin, tantôt elle le rêvait mourant de faim. Vers le matin, elle entendit certainement une terrible exclamation. Aussitôt, elle se vêtit et accourut au petit jour, d'un pied léger, auprès de son cousin qui avait laissé sa porte ouverte. La bougie avait brûlé dans la bobèche du flambeau. Charles, vaincu par la nature, dormait habillé, assis dans un fauteuil, la tête renversée sur le lit. Il rêvait, comme rêvent les gens qui ont l'estomac vide. Eugénie put pleurer à son aise. Elle put admirer ce jeune et beau visage, marbré par la douleur, ses yeux gonflés par les larmes, et qui, tout endormi, semblait encore verser des pleurs. Charles devina sympathiquement la présence d'Eugénie. Il ouvrit les yeux et la vit attendrie. « Pardon, ma cousine, » dit-il, ne sachant évidemment ni l'heure qu'il était, ni le lieu où il se trouvait. « Il y a des cœurs qui vous entendent ici, mon cousin, et nous avons cru que vous aviez besoin de quelque chose. Vous devriez vous coucher, vous vous fatiguez en restant ainsi. »
« Cela est vrai. »«
Eh bien, adieu. »
Elle se sauva, honteuse et heureuse d'être venue. L'innocence ose seule de telles hardiesses. Instruite, la vertu calcule aussi bien que le vice. Eugénie, qui, près de son cousin, n'avait pas tremblé, put à peine se tenir sur ses jambes quand elle fut dans sa chambre. Son ignorante vie avait cessé tout à coup. Elle raisonna, se fit mille reproches. « Quelle idée va-t-il prendre de moi ? Il croira que je l'aime. »
C'était précisément ce qu'elle désirait le plus de lui voir croire. L'amour franc a sa préscience et sait que l'amour excite l'amour. Quel événement pour cette jeune fille solitaire d'être ainsi entrée furtivement chez un jeune homme ! N'y a-t-il pas des pensées, des actions qui, en amour, équivalent pour certaines âmes à de saintes fiançailles ? Une heure après, elle entra chez sa mère et l'habilla suivant son habitude. Puis elles vinrent s'asseoir à leur place devant la fenêtre et attendirent Grandet avec cette anxiété qui glace le cœur ou l'échauffe, le serre ou le dilate, selon les caractères, alors que l'on redoute une scène, une punition. Sentiment d'ailleurs si naturel que les animaux domestiques l'éprouvent, au point de crier pour le faible mal d'une correction, eux qui se taisent quand ils se blessent par inadvertance. le bonhomme descendit. Mais il parla d'un air distrait à sa femme, embrassa Eugénie et se mit à table sans paraître penser à ses menaces de la veille. « Que devient mon neveu ? L'enfant n'est pas gênant. »«
Monsieur, il dort, » répondit Nanon.
« Tant mieux, il n'a pas besoin de bougie, » dit Grandet d'un ton goguenard. Cette clémence insolite, cette amère gaieté, frappèrent Madame Grandet, qui regarda son mari fort attentivement. Le bonhomme, ici peut-être est-il convenable de faire observer qu'en Touraine, en Anjou, en Poitou, dans la Bretagne, le mot « bonhomme », déjà souvent employé pour désigner Grandet, est décerné aux hommes les plus cruels comme aux plus bonasses, aussitôt qu'ils sont arrivés à un certain âge. Ce titre ne préjuge rien sur la mansuétude individuelle. Le bonhomme, donc, prit son chapeau, ses gants et dit « Je vais muser sur la place pour rencontrer nos cruchots. »
Eugénie, ton père a décidément quelque chose.
En effet, peu dormeur, Grandet employait la moitié de ses nuits aux calculs préliminaires qui donnaient à ses vues, à ses observations, à ses plans, leur étonnante justesse et leur assurait cette constante réussite de laquelle s'émerveillaient les Saumurois. Tout pouvoir humain est un composé de patience et de temps. Les gens puissants veulent et veillent. La vie de l'avare est un constant exercice de la puissance humaine mise au service de la personnalité. Il ne s'appuie que sur deux sentiments, l'amour-propre et l'intérêt. Mais l'intérêt étant en quelque sorte l'amour-propre solide et bien entendu, l'attestation continue d'une supériorité réelle, l'amour-propre et l'intérêt sont deux parties d'un même tout, l'égoïsme. De là vient peut-être la prodigieuse curiosité qu'excitent les avares, habilement mis en scène. Chacun tient par un fil à ses personnages, qui s'attaquent à tous les sentiments humains, en les résumant tous. Où est l'homme sans désir? Et quel désir social se résoudra sans argent? Grandet avait bien réellement quelque chose, suivant l'expression de sa femme. Il se rencontrait en lui, comme chez tous les avares, un persistant besoin de jouer une partie avec les autres hommes, de leur gagner légalement leurs écus. Imposer autrui, n'est-ce pas faire acte de pouvoir, se donner perpétuellement le droit de mépriser ceux qui, trop faibles, se laissent ici-bas dévorer? Oh, qui a bien compris l'agneau paisiblement couché aux pieds de Dieu, le plus touchant emblème de toutes les victimes terrestres, celui de leur avenir? Enfin, la souffrance et la faiblesse glorifiées. Cet agneau, l'avare le laisse s'engraisser. Il le parque, le tue, le cuit, le mange et le méprise. La pâture des avares se compose d'argent et de dédain. Pendant la nuit, les idées du bonhomme avaient pris un autre cours. De là, sa clémence. Il avait tourdi une trame pour se moquer des Parisiens, pour les tordre, les rouler, les pétrir, les faire râler, venir, suer, espérer, pâlir, pour s'amuser d'eux, lui, ancien tonnelier, au fond de sa salle grise, en montant l'escalier vermoulu de sa maison de Saumur. Son neveu l'avait occupé. Il voulait sauver l'honneur de son frère mort, sans qu'il en coûtât un sou, ni à son neveu, ni à lui. Ses fonds allaient être placés pour 3 ans. Il n'avait plus qu'à gérer ses biens. Il fallait donc un aliment à son activité malicieuse et il l'avait trouvé dans la faillite de son frère. Ne sentant rien entre les pattes à pressurer, il voulait concasser les Parisiens au profit de Charles et se montrer excellent frère à bon marché. L'honneur de la famille entrait pour si peu de choses dans son projet que sa bonne volonté doit être comparée aux besoins qu'éprouvent les joueurs de voir bien jouer une partie dans laquelle ils n'ont pas d'enjeu. Et les cruchots lui étaient nécessaires, et il ne voulait pas les aller chercher, et il avait décidé de les faire arriver chez lui, et d'y commencer ce soir même la comédie, dont le plan venait d'être conçu, afin d'être le lendemain, sans qu'il lui en coûtât un denier, l'objet de l'admiration de sa ville. En l'absence de son père, Eugénie eut le bonheur de pouvoir s'occuper ouvertement de son bien-aimé cousin, d'épancher sur lui sans crainte les trésors de sa pitié, l'une des sublimes supériorités de la femme, la seule qu'elle veuille faire sentir, la seule qu'elle pardonne à l'homme de lui laisser prendre sur lui. 3 ou 4 fois, Eugénie alla écouter la respiration de son cousin, savoir s'il dormait, s'il se réveillait. Puis, quand il se leva, la crème, le café, les œufs, les fruits, les assiettes, le verre, tout ce qui faisait partie du déjeuner, fut pour elle l'objet de quelques soins. Elle grimpa lestement dans le vieil escalier pour écouter le bruit que faisait son cousin. S'habillait-il ? Pleurait-il encore ? Elle vint jusqu'à la porte. « Mon cousin !
Ma cousine !
Voulez-vous déjeuner dans la salle ou dans votre chambre ?
Où vous voudrez.
Comment vous trouvez-vous ?
Ma chère cousine, j'ai honte d'avoir faim. »
Cette conversation à travers la porte était pour Eugénie tout un épisode de roman. « Eh bien, nous vous apporterons à déjeuner dans votre chambre, afin de ne pas contrarier mon père. » Elle descendit dans la cuisine avec la légèreté d'un oiseau. « Nanon, va donc faire sa chambre !» Cet escalier, si souvent monté, descendu, où retentissait le moindre bruit, semblait à Eugénie avoir perdu son caractère de vétusté. Elle le voyait lumineux. Il parlait. Il était jeune comme elle, jeune comme son amour auquel il servait. Enfin, sa mère, sa bonne et indulgente mère, voulut bien se prêter aux fantaisies de son amour. Et lorsque la chambre de Charles fut faite, elles allèrent toutes deux tenir compagnie au malheureux. La charité chrétienne n'ordonnait-elle pas de le consoler ? Ces deux femmes puisèrent dans la religion bon nombre de petits sophismes pour se justifier leur déportement. Charles Grandet se vit donc l'objet des soins les plus affectueux et les plus tendres. Son cœur endolori sentit vivement la douceur de cette amitié veloutée, de cette exquise sympathie que ces deux âmes, toujours contraintes, surent déployer en se trouvant libres un moment dans la région des souffrances, leur sphère naturelle. Autorisée par la parenté, Eugénie se mit à ranger le linge, les objets de toilette que son cousin avait apportés, et put s'émerveiller à son aise de chaque luxueuse babiole, des colifichets d'argent, d'or travaillé qui lui tombaient sous la main, et qu'elle tenait longtemps sous prétexte de les examiner. Charles ne vit pas sans un attendrissement profond l'intérêt généreux que lui portaient sa tante et sa cousine. Il connaissait assez la société de Paris pour savoir que dans sa position, il n'y eût trouvé que des cœurs indifférents ou froids. Eugénie lui apparut alors dans toute la splendeur de sa beauté spéciale, et il admira dès lors l'innocence de ses mœurs dont il se moquait la veille. Aussi, quand Eugénie prit des mains de Nanon le bol de faïence plein de café à la crème pour le servir à son cousin, avec toute l'ingénuité du sentiment, en lui jetant un bon regard, les yeux du Parisien se mouillèrent-ils de larmes. Il lui prit la main et la baisa. « Eh bien, qu'avez-vous encore ? » demanda-t-elle. « Oh, c'est des larmes de reconnaissance, » répondit-il. Eugénie se tourna brusquement vers la cheminée pour prendre les flambeaux. « Nanon, tenez, emportez !» dit-elle. Quand elle regarda son cousin, elle était bien rouge encore. Mais au moins ses regards purent mentir et ne pas peindre la joie excessive qui lui inondait le cœur. Mais leurs yeux exprimèrent un même sentiment, comme leurs âmes se fondirent dans une même pensée. L'avenir était à eux. Cette douce émotion fut d'autant plus délicieuse pour Charles, au milieu de son immense chagrin, qu'elle était moins attendue. Un coup de marteau rappela les deux femmes à leur place. Par bonheur, elles purent redescendre assez rapidement l'escalier pour se trouver à l'ouvrage quand Grandet entra. S'il les eût rencontrées sous la voûte, il n'en aurait pas fallu davantage pour exciter ses soupçons. Après le déjeuner, que le bonhomme fit sur le pouce, le garde, auquel l'indemnité promise n'avait pas encore été donnée, arriva de Froidfond, dont il apportait un lièvre, des perdreaux, tués dans le parc, des anguilles et deux brochets dus par les meuniers.
Hé hé, ce pauvre cornoyer, il vient comme marais en carême. Est-ce bon à manger, ça ?
Oui, mon cher généreux monsieur, c'est tué depuis 2 jours.
Allons, Nanon, haut le pied, dit le bonhomme. Prends-moi cela, ce sera pour le dîner. Je régale 2 cruchots.
Nanon ouvrit les yeux bêtes et regarda tout le monde.
Eh bien, dit-elle, où que je trouverai du lard et des épices ?
Ma femme, dit Grandet, donne 6 francs à Nanon et fais-moi souvenir d'aller à la cave chercher du bon vin.
Eh bien donc, monsieur Grandet, reprit le garde qui avait préparé sa harangue afin de faire décider la question de ses appointements.
Monsieur Grandet, ta-ta-ta-ta-ta-ta, dit Grandet, je sais ce que tu veux dire. Tu es un bon diable. Nous verrons cela demain. Je suis trop pressé aujourd'hui.
Ma femme, donne-lui 100 sous, dit-il à madame Grandet.
Il décampa. La pauvre femme fut trop heureuse d'acheter la paix pour 11 francs. Elle savait que Grandet se taisait pendant 15 jours, après avoir repris, pièce à pièce, l'argent qu'il avait donné.
« Tiens, cornoyer, dit-elle en lui glissant 10 francs dans la main, quelques jours nous reconnaîtrons tes services. »
Cornoyer n'eut rien à dire, il partit.
« Madame, dit Nanon, qui avait mis sa coiffe noire et pris son panier, je n'ai besoin que de 3 francs, gardez le reste. Allez, ça ira tout de même. »
« Fais un bon dîner, Nanon, mon cousin descendra, » dit Eugénie.
Décidément, il se passe ici quelque chose d'extraordinaire, dit madame Grandet. Voici la 3e fois que, depuis notre mariage, ton père donne à dîner. Vers 4 heures, au moment où Eugénie et sa mère avaient fini de mettre un couvert pour 6 personnes et où le maître du logis avait monté quelques bouteilles de ces vins exquis que conservent les provinciaux avec amour, Charles vint dans la salle. Le jeune homme était pâle. Ses gestes, sa contenance, ses regards et le son de sa voix eurent une tristesse pleine de grâce. Il ne jouait pas la douleur, il souffrait véritablement. Et le voile étendu sur ses traits, par la peine, lui donnait cet air intéressant qui plaît tant aux femmes. Eugénie l'en aima bien davantage. Peut-être aussi le malheur l'avait-il rapproché d'elle. Charles n'était plus ce riche et beau jeune homme placé dans une sphère inabordable pour elle, mais un parent plongé dans une effroyable misère. La misère enfante l'égalité. La femme a cela de commun avec l'ange que les êtres souffrants lui appartiennent. Charles et Eugénie s'entendirent et se parlèrent des yeux seulement, car le pauvre dandy déchu, l'orphelin, se mit dans un coin, s'y tint muet, calme et fier. Mais de moment en moment, le regard doux et caressant de sa cousine venait luire sur lui, le contraignait à quitter ses tristes pensées, à s'élancer avec elle dans les champs de l'espérance et de l'avenir, où elle aimait à s'engager avec lui. En ce moment, la ville de Saumur était plus émue du dîner offert par Grandet au Cruchot qu'elle ne l'avait été la veille par la vente de sa récolte, qui constituait un crime de haute trahison envers le vignoble. Si le politique vigneron eût donné son dîner dans la même pensée qui coûta la queue au chien d'Alcibiade, il aurait été peut-être un grand homme, mais trop supérieur à une ville de laquelle il se jouait sans cesse, il ne faisait aucun cas de Saumur. Les des Grassins apprirent bientôt la mort violente et la faillite probable du père de Charles. Ils résolurent d'aller dès le soir même chez leur client, afin de prendre part à son malheur et lui donner des signes d'amitié, tout en s'informant des motifs qui pouvaient l'avoir déterminé à inviter, en semblable occurrence, les Cruchot à dîner. À 5 heures précises, le président C. de Bonfond et son oncle le notaire arrivèrent endimanchés jusqu'aux dents. Les convives se mirent à table et commencèrent par manger notablement bien. Grandet était grave, Charles silencieux, Eugénie muette, madame Grandet ne parla pas plus que de coutume, en sorte que ce dîner fut un véritable repas de condoléances. Quand on se leva de table, Charles dit à sa tante et à son oncle : « P. Permettez-moi de me retirer. Je suis obligée de m'occuper d'une longue et triste correspondance.
Faites, mon neveu. »
Lorsqu'après son départ, le bonhomme put présumer que Charles ne pouvait rien entendre et devait être plongé dans ses écritures, il regarda sournoisement sa femme.
« Madame Grandet, ce que nous avons à dire serait du latin pour vous. Il est 7h30, vous devriez aller vous serrer dans votre portefeuille. Bonne nuit, ma fille !»
Il embrassa Eugénie, et les deux femmes sortirent.